Un voyage sur autoroute n'est pas forcément linéaire d'un point A à un point B. Dans Chemin de Traverse, je vous propose de vous échapper quelques heures pour partir à la découverte de maisons d'artistes ou sur les traces de grands écrivains, chanteurs ou peintres. Dans ce nouvel épisode, je vous emmène à Sète, dans les pas de Georges Brassens. Les copains d'abord, la chanson pour l'Auvergnat, le gorille, on connaît tous une chanson de Georges Brassens. Il en a écrit plus de 200 au total, que les jeunes générations continuent de fredonner. Dans les années 60, en à peine 10 ans de carrière, Brassens avait déjà vendu 15 millions de disques.
Tout à coup la prison bien close, où vivait le bel animal, s'ouvrant, c'est pourquoi je suppose qu'on avait dû la fermer mal. Le singe en sortant de sa cage, dit c'est aujourd'hui que je le perds, il parlait de son pucelage, vous aviez deviné j'espère, Garogory.
C'est ici qu'il est né, le 22 octobre 1921, à l'époque où Sète s'écrivait encore 7 C-E de T-E. Et même si sa carrière, ses tournées et les événements de la vie l'ont conduit à vivre à Paris ou en Bretagne, c'est ici, dans la perle du Languedoc, qu'il est venu jusqu'au bout se ressourcer. J'ai rendez-vous 67 boulevard Camille Blanc avec Catherine Matta. Elle est la directrice de l'espace Brassens. Bonjour Catherine Matta.
Bonjour.
Merci de m'accueillir à l'espace Brassens. Comment vous pouvez nous présenter ce lieu ? On est où exactement ?
Alors, l'espace Georges Brassens est un lieu qui est consacré à Georges Brassens, à sa vie, à son œuvre sur la ville de Sète.
Il a été créé quand ? C'est assez surprenant parce que le bâtiment est très neuf. Alors, on va évidemment parler de cette vue magnifique qu'on a ici avec la mer. Il fait très très beau aujourd'hui. C'est un bâtiment qui date de quand ?
C'est un bâtiment qui a été créé en 1991. C'est après la mort de Georges Brassens. Il a été agrandi en 2006 et maintenant nous avons 850 mètres carrés qui sont consacrés au poète de Sète.
Le poète de Sète, en quoi consiste ce lieu ? C'est quoi sa vocation précisément ?
Alors ce lieu, c'est à la fois un lieu de mémoire, mais ce n'est pas qu'un lieu de mémoire, c'est un lieu qui est là pour transmettre l'œuvre de Georges Brassens et la faire connaître à tous les visiteurs que nous avons dans l'espace.
Oui, parce que vous me disiez que la visite se fait avec la voix de Georges Brassens, ça c'est assez unique.
Oui, tout à fait. Si vous voulez, c'est une visite qui est très particulière puisque Georges Brassens commente les salles que le visiteur rencontre dans son parcours. Voilà, donc lorsqu'il sort de cette visite, il ressent très très souvent une très forte émotion.
Dans ma mémoire, dans ma vie intérieure, dans ma pensée, entre guillemets, dans le petit théâtre que j'ai depuis l'âge de 14 ou 15 ans dans la tête, il se passe des tas de choses. Il se passe des tas de choses qui sont parfois réelles et qui relèvent souvent de la fiction, évidemment de la pure invention, qui se charge de réminiscences, qui se charge de tout ce qui se passe dans la vie des autres et dans la mienne.
On est où là exactement ? Expliquez-nous un petit peu ce qu'on a devant nous là.
Alors en fait, on se situe entre l'étang de Thaux que nous voyons maintenant avec les villes de Metz, Balaruc, Bouzigues, et entre l'étang de Thaux et la mer Méditerranée. Donc la mer est partout, comme à Sète, et c'est vraiment une ambiance dans laquelle Georges Brassens, on peut le dire, a baigné toute son enfance.
Mais c'était surtout des enfants qui allaient à la plage. On y allait jusqu'à 16, 17, 18 ans, d'abord tout petit pour faire des pâtés, et un peu plus tard pour voir des filles, quoi.
Nous étions quatre bacheliers sans vergogne, la vraie crème des écoliers.
Je vous propose qu'on commence la visite de l'espace, je vous suis.
Avec plaisir.
Allez, on y va. Le parcours est un espace ouvert où on navigue librement dans l'intimité de Georges Brassens, de son enfance à Sète au premier pas sur la scène des petits cabarets parisiens. Au centre, la place d'un village a été reconstituée avec un banc public pour les amoureux.
Ils se tiennent par la main, parlent du lendemain, du papier bleu d'azur. Que revêtiront les murs de leur chambre à coucher ? Ils se voient déjà doucement, elle cousant, lui fumant dans un bien-être sûr. Et choisissent les prénoms de leur premier bébé. les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics.
C'est très interactif, hein, cet espace. Il y a beaucoup d'animation et il y en a un petit peu à tous les niveaux. Pour les enfants notamment, vous me parliez de la transmission. C'est important de transmettre l'œuvre de Brassens aujourd'hui aux jeunes générations.
Alors moi, je pense que ça l'est, effectivement, parce que Brassens, c'est un patrimoine. Il ne nous appartient pas qu'à nous. Laissez-toi qu'il en connu. Il appartient à tout le monde. Et je pense que son répertoire est porteur de valeurs qui font du bien à tout le monde. Elles sont un peu quelques clés. Il est donc important de les transmettre. Et c'est la raison pour laquelle l'espace a créé des parcours qui sont dédiés à la petite enfance, des enfants qui sont âgés de 0, quelque chose jusqu'à 3 ans et que l'on accueille tous les lundis matins hors vacances. Et ils découvrent Georges Brassens, c'est à leur niveau, avec des jeux qui sont adaptés, avec des thèmes sur les instruments. Le musée est à eux.
Il est actuel encore, Georges Brassens, ses textes traverse comme ça les générations, le temps.
Bah écoutez, moi je pense qu'on ne peut pas dire le contraire. En tout cas, il est chanté dans plus de 30 langues, il est repris par les jeunes générations. Et les textes sont fondateurs. Et je pense que c'est pour ça qu'il est universel.
Vous me parliez aussi des rappeurs qui le citent beaucoup en référence. Alors c'est vrai que ça peut paraître un peu étonnant comme ça, mais il y a une histoire de mots dans tout ça, de rythme. Il avait un flow, comme on dit. Enfin, les rappeurs, ils parlent de flow, et Georges Brassens, il avait un flow aussi.
Tout à fait. Moi, je pense que l'écriture est au centre de tout, à la fois pour les rappeurs, à la fois pour Georges Brassens. Il l'a dit ça de multiples reprises. Et puis, il y a une rythmique des vers. Et je pense que les rappeurs, ils sont également sensibles.
Quand ils sont tout frais, tout juste prêts, c'est certes vrai. Les jeunes blancs-becs prennent les vieux mecs pour des benets. Une fois vieillis, une fois les cheveux gris, la calvitie. Le gros de ces gars-ci prennent les jeunes pour des imbéciles. Moi qui aussi, entre deux aussi, je m'adresse à eux. Sans être grossi et à vous aussi, je dirais ça que. Le temps ne fait rien à l'affaire, offre peu d'aide. Lorsqu'on est con, y'a rien à faire, je connais pas de remède. Qu'on soit prépubère ou bien grand-père ou bien même qu'on décède. Lorsqu'on est con, là rien ne sert, crier à l'aide. Le temps ne fait rien à l'affaire, offre peu d'aide. Lorsqu'on est con, y'a rien à faire, je connais pas de remède. Entre vous, plus de controverses, il suffit qu'on reconnaisse que vieux cons et cons de la dernière affaire sont aussi cons. Vous, les louveteaux, les contours.
Puisqu'on est là, parlez-moi un petit peu de cette loge reconstituée avec des photos d'artistes. On le voit bien entouré avec Jacques Brel, tiens, avec Bobby Lapointe, je le vois ici. C'est le côté showbiz de Georges Brassens, même si j'imagine il aimait pas tellement ce mot, mais en tout cas, il côtoyait beaucoup du beau monde.
Alors, il côtoyait du beau monde, mais bon, showbiz, évidemment, je suis d'accord avec vous. Je pense que le terme n'est pas tout à fait adapté. Je crois que c'était un homme de scène et un homme d'écriture et un poète musicien. C'est plutôt comme ça que je le définirais. Et effectivement, quand on le voit avec Bobby Lapointe, quand on le voit avec Raymond Devos, on comprend pourquoi.
Changement de décor, nous partons maintenant sur les hauteurs de la ville, dans les quartiers populaires de Sète, au 20 rue Georges Brassens, anciennement la rue de l'Hospice. C'est là que se trouve sa maison natale, une maison qui ne se visite pas. Elle est aujourd'hui habitée par la famille Brassens. On arrive devant la maison natale de Georges Brassens. Alors, c'est un lieu important, c'est là que tout commence. Parlez-nous de sa famille, déjà.
Alors,
c'est une famille
on peut dire que c'est là que tout commence, mais moi je pense que l'histoire de Georges Brassens, elle a commencé juste avant sa naissance. Et elle a commencé au 19e siècle, lorsque les grands parents maternels qui viennent du golfe de Gênes émigrent sur Sète. Et c'est vrai que Sète, là où on se trouve actuellement, c'est un peu l'Italie, hein, cette partie de Sète, c'est dans les parties hautes, on descend vers le port, ça rappelle un peu Naples avec le linge aux fenêtres. Donc, ce sont des gens simples, des gens, on pourrait même dire pauvres, puisque le grand-père est peintre en bâtiment, journalier, et ils vont avoir 7 enfants, donc 3 vont survivre, la mère de Georges Brassens, sa tante Antoinette, qui plus tard il retrouvera sur Paris, et sa tante Louise, dont le fils Georges Granier, habite actuellement la maison que nous avons sous nos yeux.
Donc c'est toujours la famille hein, qui se trouve ici.
Absolument.
Et le sens de la famille, justement, c'était important hein, pour Brassens, il était très proche de ses parents.
Alors Brassens était très proche de ses parents, ses parents l'ont profondément marqué. Sa mère, donc italienne, une forte personnalité, très présente, très possessive, qui avait pensé que pour son fils, il fallait que les études soient réussies pour avoir une meilleure position sociale. Bon, quand on sait la suite de Georges Brassens, on comprend qu'elle a certainement marqué.
Maman, maman, en faisant cette chanson, maman, maman, je redeviens petit garçon. Alors je suis sage en classe et pour te faire plaisir, j'obtiens les meilleures places. Ton désir,
papa, papa, en faisant cette chanson, papa, papa, je redeviens petit garçon et je t'entends sous l'orage user tout ton humour pour redonner du courage à nos cœurs lourds. Papa, papa, il n'y eut pas entre nous, papa, papa, de tendresse ou de mots doux. Pourtant on s'aimait bien qu'on ne se l'avoua pas. Papa, papa.
Son père qui lui était anticlérical, anti-parti politique, qui rejetait toute forme de dogme. Alors décrit comme ça, on pourrait le prendre pour quelqu'un d'assez rigide, mais pas du tout. En fait, c'était quelqu'un qui était très tolérant. Et Brassens a été marqué par cette tolérance de son père, surtout lors de l'épisode des bijoux qui a sur cette défrayé la chronique, même si Brassens n'y a joué qu'un rôle mineur.
Alors on peut en parler quand même de cette histoire.
On
parce
peut
que c'est,
en parler.
Il en a fait une chanson en plus.
Alors la mauvaise réputation, oui. Donc finalement c'est bien que cette histoire ait eu lieu, vous voyez, on a récupéré une superbe chanson.
C'est quoi, il est impliqué dans un...
Alors il y a eu il a été à un moment donné, qu'il a fréquenté des adolescents plus grands que lui, qui ont commis des larcins dans le quartier. Et Brassens s'y est plus ou moins associé, même de loin, puisque lui, son seul larcin, ça aurait été de dérober quelques bijoux à sa sœur, mais sans dire au fameux chef de bande d'où ça venait. Il avait suivi sans vraiment suivre. C'était un peu Brassens. Et donc, par contre, l'affaire a eu un grand retentissement sur 7. Il a été condamné à de la prison avec sursis. Et quand les gens criaient à mort, en prison, etc., son père qui est venu, c'est le récupérer, ne lui a rien dit, ne lui a fait aucun reproche. Donc je pense que cette tolérance-là, il l'a beaucoup appréciée. Et c'est vrai qu'elle a donné lieu à la mauvaise réputation, qu'elle a aussi donné lieu à maman-papa, parce qu'il parle de sa mère, de ses mauvais résultats scolaires, et qui regrettait de les avoir fait pleurer, et de la tolérance de son père.
En n'écoutant pas le clairon qui sonne, mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que non. Les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots, ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire? Le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes, mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route.
J'aurais pu devenir un pilleur de banque, un gangster, un Al Capone de petite catégorie, racontera-t-il plus tard au sujet de cet épisode. Nous remontons ensuite une colline, direction le collège Paul Valéry. Georges y entre à l'âge de 11 ans, mais il déteste l'école. Sa mère, Elvira, le voit devenir médecin ou avocat, mais ses résultats sont si mauvais que Simone, sa demi-sœur, falsifie les notes pour ne pas contrarier cette femme de caractère. Au collège, Georges fait des rencontres décisives, Alphonse Bonafé notamment, le professeur de français. Il va jouer un rôle déterminant. « Si je ne l'avais pas rencontré, racontera plus tard Brassens, je me serais emmerdé comme un rat mort. »
D'abord, c'est un jeune professeur. Il arrive du Havre. Il a été ami avec Jean-Paul Sartre. Il a été champion de boxe. Et il a un style qui le différencie complètement de tout ce qu'il a connu jusqu'alors. Il ne s'assied pas derrière le bureau comme les autres professeur, il s'assied carrément dessus et il remet en cause un peu l'enseignement tel qu'il a été pratiqué jusqu'alors.
C'est le déclic hein, pour Georges, pour le jeune Georges, qui ne s'intéresse pas vraiment aux études. C'est vraiment la personnalité de ce professeur-là qui va engendrer pas mal de choses. Et notamment les mots, la poésie, ça vient de là. Hein.
Oui, je crois que ça a été un choc pour lui, bon, pour les autres élèves également, hein, parce qu'il n'avait jamais connu un professeur de cette nature-là. Mais pour moi, je fais un peu la comparaison avec le rôle de Robin Williams dans le cercle des poètes disparus. Je me l'imagine un peu comme ça. Tous les élèves sont sous le charme.
Et c'est quand même un peu une ironie de l'histoire de se dire que lui qui n'était pas fort à l'école, il est appelé plus tard le poète de la chanson française.
C'est vrai, mais en même temps, heureusement hein, qu'on peut être poète sans être fort à l'école. Hein, et on a connu comme ça d'autres exemples. Mais Alphonse Bonnaffé restera toujours, c'est une référence pour Georges Brassens. Il lui a montré certains de ses poèmes plus tard. Et Bonnaffé lui a demandé de travailler encore et encore l'écriture. Lorsque plus tard, Georges Brassens écrira certaines chansons, il se demandera toujours est-ce que cette chanson plairait à Bonnaffé. Et tant qu'il pense que ça lui plairait pas vraiment, il continuait à retravailler sans cesse.
J'ai négligé mes études parce que je passais mon temps avec une musique dans la tête. Et dès que j'avais entendu une musique qui me plaisait, je la ruminais pendant une semaine ou deux ou trois, puis je l'abandonnais après au profit d'une autre, mais elle revenait après si elle tenait le coup, et je passais mon temps à éprouver les espèces de frissons que je n'ai jamais dans la vie ressentis autrement que par la musique.
Un autre écrivain, lui aussi natif de Sète, Paul Valéry, décrivait sa ville comme une île singulière, avec d'un côté la mer et de l'autre l'étang de Thau. Georges Brassens, devenu célèbre à Paris, en fait son terrain de jeu lorsqu'il revient à Sète, le lieu des retrouvailles avec les copains.
Sur la grand-mare des canards, et s'appeler les copains d'abord, les copains d'abord. Ces fluctuates, nec mergitures, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sort, aux jeteurs de sort. Son capitaine et
on s'approche de l'étang de Thau avec une vue incroyable et au loin on aperçoit un phare. C'est un lieu où il aimait se rendre aussi. Hein.
Alors oui, Brassens aimait particulièrement l'étang de Thau. Il aimait la mer, mais il aimait quand même particulièrement l'étang de Thau où il a été depuis son enfance pêcher des crabes avec les copains, avec son père également. Donc c'est un lieu qu'il aimait et il a découvert le phare de Ronquerolles. Et c'est un phare où il allait lorsqu'il est devenu donc célèbre et qu'il avait acquis un bateau pour tout simplement se baigner, nager, plonger. Et ramasser des moules qui étaient sur les rochers. Georges Brassens a eu plusieurs bateaux. Le Sauve qui peut, qui est en l'espace Georges Brassens et qui accueille le visiteur. Il y a eu également le GIS. Et le GIS, le nom de ce bateau, correspond aux initiales des prénoms de la famille Brassens, Georges, Yves, Simone, sa sœur, et Serge, son neveu. Et c'était des bateaux sur lesquels il prenait ses amis pour aller au phare de Ronquerolles.
Vous me parliez des copains. Évidemment, on ne peut pas ne pas penser aux copains quand on pense à Brassens. C'était qui, ses copains?
Alors, il y avait les copains de Sète qu'il a rencontrés au collège. Donc, il y avait Henri Delpont, l'ami, le frère presque, on va dire. Hein. Il y avait Émile Miramont, Corne d'eau rock, hein, qui a inspiré la chanson Corne d'eau rock.
Il avait non corne de rock, au gay, au gay, tout le monde peut pas s'appeler Durand, au gay, au gay. Il avait non corne de rock, au gay, au gay, tout le monde peut pas s'appeler Durand, au gay, au gay.
Mais il y avait également Laurent Spinozzi, c'était une personne qui vivait dans une cabane sur les berges de l'étang de Thau, du côté de Balaruc-les-Bains, et qu'il a rencontré à l'occasion d'une promenade sur l'étang de Thau avec son ami Henri Delpont. Ils sont tombés en panne et la personne qui passait, c'était Laurent Spinozzi, dit Lolo, qui les a dépannés. Et à partir de cette rencontre, Brassens a fréquenté la petite baraque sans eau ni électricité. Et Brassens aimait beaucoup cette vie très frugale, finalement, un peu celle qu'il avait connue à Paris quand il était hébergé chez Jeanne Planche.
Jeanne Planche, l'amie intime, c'est chez elle qu'il se cachera pour fuir le service du travail obligatoire en Allemagne en 1944. Il vivra de longues années avec Jeanne et son mari dans la petite maison de l'impasse Florimond dans le 14e arrondissement à Paris.
Jean en place dormez, sans vous alarmer, rien ne vous menace. Ce n'est qu'un jeune sot qui monte à l'assaut du petit Montparnasse. On s'étonnera pas si mes premiers pas tout droit me menèrent au pont Mirabeau pour un coup de chapeau à l'Apollinaire, à l'Apollinaire.
À 7, nous sommes de retour à l'espace Brassens. J'ai rendez-vous avec Bernard Demanet, avec l'association Cap Brassens. Il anime des chorales et fait chanter Brassens de 7 à 77 ans. Comment on chante Georges Brassens aujourd'hui? Est-ce que c'est difficile?
C'est pas difficile de chanter Georges Brassens. Il faut surtout le chanter, j'allais dire, sans se prendre la tête. Il faut le chanter comme on l'aime, comme ça vient, c'est ce qu'on veut faire. Avec la chorale de l'association Cap Brassens et avec la chorale que j'anime également en liaison avec l'espace Brassens qui réunit à la fois des enfants, des adhérents de Cap Brassens et des résidents de maisons de retraite qui nous rejoignent.
On dit souvent qu'il avait un débit, un rythme assez unique.
Oui, c'est étonnant parce qu'on pense souvent que c'est monotone. Or, les musiques de Brassens ne sont pas monotones du tout, elles ne sont pas faciles. Et ensuite, on pense également qu'il chantait peut-être lentement, ce qui n'est pas du tout le cas. Et on est souvent surpris quand on chante de voir qu'il chantait quand même assez rapidement.
Quelle est la plus difficile à chanter, selon vous ?
Alors, pour le moment, celle qu'on a le plus de mal à chanter, il y en a une qui est difficile à chanter, c'est la chasse aux papillons, parce qu'elle est très rapide.
Un bon petit diable à la fleur de l'âge, la jambe légère et l'œil polisson, et la bouche pleine de joyeux ramages, allait à la chasse aux papillons.
Comme il a et il y en a une autre, c'est mourir pour des idées. Parce que mourir pour des idées, il l'interprétait vraiment à sa façon, en faisant des pauses quand il le voulait, ce qui n'est pas facile à faire avec une chorale.
Avec les enfants, j'imagine que c'est un travail encore différent, encore particulier. Vous leur faites chanter quoi de Brassens?
Alors les chorales, on avait un guitariste qui les a accompagnés. Il leur a fait chanter une chanson assez lente, La canne de Jeanne. Et il leur a fait chanter également Le petit cheval.
Le petit cheval.
Catherine Matta m'emmène pour finir au cimetière Le Pie, appelé à 7 le cimetière des pauvres par opposition au cimetière marin, appelé lui le cimetière des riches. C'est là, au cimetière Le Pie, qu'est enterré Georges Brassens, mort le 29 octobre 1981. Impossible de ne pas trouver sa tombe. Dès l'entrée du cimetière, le parcours est fléché.
On continue l'allée.
Et on y arrive.
Et on y arrive. Comme vous pouvez le voir, c'est une tombe très simple hein, qui accueille les parents de Georges Brassens, sa sœur, son beau-frère. Georges Brassens lui-même et Joa Heymann-Dit Pupchen, qui était sa compagne et sa muse et qu'il a rejoint en 1999.
Alors, il a écrit une chanson, il faut que vous nous racontiez ça. Georges Brassens vous l'explique qu'il n'a pas tellement envie d'être enterré dans un cimetière, mais c'est juste une chanson.
Il nous l'a expliqué à travers différentes interviews que pour lui, il n'avait jamais eu l'idée d'être enterré sous la plage de la Corniche, mais il est vrai que beaucoup de personnes le croient encore et peut-être sont contentes d'y croire.
Et dans cette chanson, il explique qu'il veut qu'au-dessus sud, justement, sa tombe sur la plage soit planté un pin parasol pour abriter du soleil les visiteurs qui viendraient le voir.
Voilà, donc si vous voulez, il y a une œuvre de Pierre François qui illustre justement cette phrase de la supplique. Elle est accompagnée d'un très joli dessin qui est bien représentatif de l'esprit de Georges Brassens qui représente la mer et le fameux bateau au loin.
Que vers le sol natal mon corps soit ramené dans un sleeping du Paris Méditerranée, terminus en gare de Sète. Mon
caveau de famille, hélas, n'est pas tout neuf. Vulgairement parlant, il est plein comme un œuf. Et d'ici que quelqu'un en sorte, il risque de se faire tard, et je ne peux dire à ces braves gens, poussez-vous donc un peu, place aux jeunes en quelque sorte.
Alors un mot de Pupchen. Pupchen, c'est un des nombreux surnoms de Joa Eman, en fait, qui a été une femme très importante pour Brassens.
Oui, c'est une femme très importante pour Brassens. Il l'a rencontrée sur Paris et ça a été le début d'une très grande histoire d'amour. Donc Joa était estonienne et elle s'est émigrée sur Paris dans les années 30. Et elle a été pour lui une muse discrète mais particulièrement présente. Et ils ont vécu selon un mode un peu inhabituel pour l'époque, puisqu'ils ne se sont jamais mariés. Ils n'ont jamais vécu sous le même toit. Et donc elle a inspiré des chansons très importantes. J'ai rendez-vous avec vous, La non demandant en mariage, Saturne, rien à jeter. C'est vraiment un éloge de la femme.
J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. Laissons le champ libre à l'oiseau. Nous serons tous les deux prisonniers sur parole. Au diable les maîtresses que qui attachent les cœurs aux queues des casseroles.
Et il était contre le mariage.
Mais il était un peu contre tout ce qui était institutionnel. C'était le courant un peu libertaire. Mais en même temps, il lui a offert une très belle chanson. Cette non demande en mariage vaut certainement tous les mariages du monde. Et il avait une vision de la femme très moderne, finalement. Il ne voulait pas de servante, etc. Donc c'était une façon de lui déclarer son amour. Et elle y a été sensible. Elle a d'ailleurs tout le temps dit « Je n'ai pas vécu dans l'ombre de Georges Brassens, j'ai vécu dans sa lumière. » Et lui a toujours été satisfait d'être avec elle, puisque, paraît-il, la veille de son décès, il lui aurait dit « Nous avons été bien ensemble et j'aurais aimé que ça dure un peu plus. »
Alors que nous quittons le cimetière, nous sommes rejoints par Noël et Amy, sans doute intrigués par notre micro. Le couple est venu se recueillir sur la tombe. Ils se souviennent de Georges Brassens sur scène. Vous avez donc des souvenirs? C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui?
Des souvenirs, oui. Bon, oui, on est là un peu aujourd'hui, un peu par rapport à ça. On l'a applaudi à Bobino. On habitait pas très loin de chez lui, à Montparnasse. Et c'était un type extraordinaire, Brassens.
Vous l'avez rencontré?
Rencontré, non. Moi, pas perso, mais bon, je l'ai tellement applaudi que c'était comme si, quoi. Parce que quand il était sur scène à Bobino, on était en famille.
C'était en quelle année?
Oh, c'était les années, 70 par là, 70-80.
Il était âgé déjà quand on l'a vu à Bobino, mais on l'avait vu avant dans d'autres spectacles.
C'était un mec tellement extraordinaire que bon, il y aurait beaucoup à dire. Et, bon, voilà, on l'a beaucoup aimé, on l'aime encore, et ses chansons, ben, elles sont éternelles, et voilà, bon, en plus, c'est chez nous, presque. Et donc, c'est bien qu'il ne soit pas enterré sur la plage et qu'on puisse y aller, parce que sur la plage, de ma foi, il aurait été emporté avec l'eau. Non, c'est bien là.
Et vous, madame?
Les belles paroles en français. Et puis bon, on l'a suivi depuis qu'on était toutes gamines, avec mes sœurs. Donc on l'avait vu à l'Olympia et ailleurs, on l'avait pas mal suivi.
C'est quoi votre chanson préférée de Georges Brassens?
Gare aux Gorilles, parce qu'elle me faisait rire.
Ah, moi, c'est Les Copains d'abord. Parce que c'est la vie de tous les jours, les copains. Sans copains, sans famille, on est mort, on n'existe pas. Les copains d'abord, oui, avant tout. La famille, on l'a subi, les copains, on les choisit.
C'était pas des amis de luxe, des petits castors et pollux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie. Sur le ventre, ils se tapaient fort, les copains d'abord.
c'étaient pas des anges non plus. L'évangile, il l'avait pas lu, mais il s'aimait toute voix de dehors, toute voix de dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confiteor, aux copains d'abord.
Ainsi s'achève ma visite sur les pas de Georges Brassens. Si vous repartez par l'autoroute A9, n'oubliez pas de faire une pause sur l'aire de Loupian. Vous y découvrirez un parcours dédié aux poètes de Sète.
Et quand ils étaient en détresse, Globe a lancé des SOS, honoré dit des sémaphores, les copains d'abord.